Bonjour Pierre.
Aujourd'hui, nous allons parler des jeunes.
Des jeunes.
Oui. Et en fait, disons, dans l'expression « être jeune aujourd'hui », ça a l'air d'être une problématique. Il semble que les jeunes peuvent avoir des difficultés de vivre cet état. Alors, je me demande si c'est, disons, vraiment difficile à vivre, la jeunesse. Est-ce un problème spécial de notre société actuelle ou ça existait avant? Moi, je ne m'en souviens plus.
Moi non plus.
Bon, quand même. Et donc, je voudrais bien savoir, est-ce que c'était mieux d'abord avant? Justement. Et c'est fait un effort de mémoire, là.
C'est clair qu'aujourd'hui, la société que je connais, j'ai 52 ans, est très différente de la société d'il y a 35 ans, quand j'en avais 17. Aujourd'hui, on a Internet, on a les consoles Nintendo DS, on a beaucoup de choses que je n'avais pas du tout. Et personnellement, j'étais plutôt à jouer avec mon vélo et avec vous savez, ces cartons qu'on mettait sur les jantes à rayons.
Ah oui,
avec
pour faire du
pince à linge, pour faire du bruit.
Oui, oui, eh bien,
voilà.
Dis donc.
Donc ça, c'était ma jeunesse,
oui,
et quand j'avais 15 ans,
hein,
ou 10-15 ans.
Moi, je faisais un peu plus tôt, quand même.
Voilà.
À 15 ans, ça m'avait passé.
Oui, ou peut-être que je... Voilà. Et donc, peut-être que je fais à 10 ans, effectivement,
ah,
j'ai raison de dire
ça. Rassuré.
Donc, je crois que la société a évolué, mais par contre, la problématique du jeune reste la même, oui. C'est-à-dire que on pourrait commencer par définir ce que c'est que d'être jeune, hein, dire
ouais,
voilà, qu'est-ce que ça veut dire. Dans le Nouveau Testament, c'est intéressant de se souvenir que le grec du Nouveau Testament utilise des mots pour le petit enfant, paidia, qui est donné pédiatre, et puis néania aussi, qui est le petit enfant. Avec cette idée qu'il y a un enfant qui est dirigé, corrigé, c'est pas néania, c'est technia en grec, voilà, c'est différent, oui. Donc paidia et technia, ce sont les petits enfants, et après il y a tout un ensemble de mots qui sont autour de néos, qui veut dire nouveau. Néos, justement, néania, néaniskos, néotéros, qui sont des mots qui sont produits, issus de néos, qui veut dire nouveau. C'est-à-dire que la jeunesse, c'est soit le petit enfant, mettons jusqu'à la puberté, qui est quelqu'un qui doit être tenu, mené par les parents, conduit, à qui on apprend, qui est un peu comme une éponge qui se remplit de tout ce que sont les parents. Voilà. Et après la puberté, sexuellement parlant, le jeune est capable de donner naissance. Donc, le jeune est aussi capable de donner naissance à un projet, psychologiquement parlant. Et c'est pour ça que pour lui, tout est nouveau. Et donc, je fais bien deux grandes distinctions entre l'enfant et, mettons, l'adolescent ou le jeune, dans les 20 premières années de la vie, où l'enfant est celui qui intègre tout ce que les parents donnent, et l'adolescent est celui qui va reproduire tout ce qu'il aura reçu, et il le fait sous l'autorité des parents. Alors, est-ce que c'est plus difficile maintenant, au XXIe siècle, qu'il y a 30 ans? Je ne sais pas qui est-ce qui peut le dire. Pour ma part, je ne crois pas. Je crois que c'est difficile.
À chaque époque, ça.
Voilà, c'est difficile problème. Pour toutes les générations. Mais par contre, je crois que être jeune, pas être enfant, être adolescent, c'est quelque chose de difficile. C'est une période pendant laquelle le corps va se développer,
les émotions nouvelles.
Les émotions nouvelles, le rapport à l'autre, les réalités sociales, faire des amis, cette différence sexuée entre les garçons et les filles, qui fait qu'on sait qu'entre garçons et filles, ce n'est pas anodin. Hein? Le rapport d'autorité, par exemple, le rapport d'autorité entre élèves et professeurs, entre parents et enfants, entre responsables de groupe et jeunes, la question de la créativité aussi, voilà, qui est nouveau.
Effectivement, et parce que, disons, là, je reprends un petit peu, donc c'est une période agitée. C'est sûr et certain, parce qu'il y a la transformation du corps, il y a des émotions nouvelles, on vient de le dire. Mais il y a aussi, par exemple, disons, un nouveau regard sur son entourage, sur les parents. En bien ou en mal, hein, ou on les admire, ou on les supporte, ou on se révolte.
On découvre des parents qui ne sont pas aussi impeccables
que ce qu'on aurait pensé. Effectivement, sur l'école. Les professeurs, ils sont jugés, surtout en plus si les parents s'amènent, hein, sur sa propre église et sur la société. Voilà. C'est la période où ils découvrent. Et ils découvrent un monde qui n'est justement à la sortie de l'enfance, qui n'est peut-être pas aussi rose ou aussi bleu que ce qu'ils pouvaient s'imaginer. Et on comprend très bien que ça peut les perturber. Hein. C'est certain. Et je crois aussi, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée, que chacun recherche ses propres limites, jusqu'où je peux aller ou ne pas aller. Ça va dépendre aussi, évidemment, de l'éducation. Et une inquiétude sur ses capacités. Est-ce que plus tard, je serais capable de faire ceci? Est-ce que je serais capable d'aimer? Est-ce que je serais capable de recevoir l'amour d'un autre? Effectivement, et ça perturbe, effectivement. Je crois que les origines sont multiples des troubles des jeunes, et je crois que c'est une affaire sérieuse, et je me demande si toujours ça a été pris en compte, bien entendu. Alors, il faut s'identifier, il faut se prouver à lui-même et aux autres qu'on est capable de faire d'eux, parce que pour sortir de la famille, il va falloir être, il faut s'assumer. On ne peut être libre que lorsqu'on peut s'assumer. Donc tout ça, ça se rajoute. Et parfois, il y a le peur de l'avenir. Hein, est-ce que je vais devoir faire des études? Est-ce que je vais trouver l'âme sœur? Est-ce que je vais trouver du travail? Est-ce que je vais tout simplement être bien à ma peau? Et je crains que maintenant aussi, je rajoute tous les troubles, hein, vous en discuterez après, disons, il y a peut-être un manque de modèle sérieux. Je ne suis pas particulièrement traditionnaliste, hein, au contraire peut-être, mais effectivement, qu'est-ce qu'on voit? Des familles éclatées, des familles recomposées, je pense que ce ne peut pas être un facteur quand même d'équilibre. Hein. Il y a la course à l'argent. Combien tu veux, combien je vaux. Et on peut parfois, la famille, acheter la tranquillité en donnant de l'argent à l'enfant, l'argent de poche. On entend souvent beaucoup parler. Les parents donc, qui démissionnent, la faiblesse des institutions. À mon pauvre monsieur, l'école n'est plus ce qu'elle était. À mon pauvre monsieur, l'église n'est plus ce qu'elle était, on ne sait plus où se retourner, et ainsi de suite, et ce n'est pas tout à fait, effectivement. Et puis alors, je vais être encore plus dur avec, effectivement, dont l'influence des médias, et qui crée, disons, le phénomène, qui manipule la masse, et en particulier les jeunes. Les adultes tombent dans le panneau, en plus forte raison des jeunes, s'ils ont, on n'aura pas appris l'esprit critique, et ceux qui s'en inquiètent, on les gave de produits et de jeux électroniques, et dans la famille, on a le calme. puisque chacun est sur son petit appareil à taper, parfois même le père, la mère et les enfants aussi. Je pense que ce n'est pas un bon élément qu'il faut. Et ils se referment donc sur eux et ils ne vont plus, ils s'éloignent de la réalité. Et puis il y a les tentations de l'entourage pour s'affirmer, eh bien, on va goûter à la drogue, à l'alcool, à la vitesse, parce qu'on trouve parfois que c'est un moyen de s'affirmer. Je suis capable de conduire ma moto autour du pâté de maison un certain nombre de fois et à des grandes de vitesse, de la pornographie. Enfin, je trouve que ces jeunes, évidemment, ont un gros problème à vivre leur vie. Alors, d'abord, on peut se poser la question, quand est-on jeune dans ces situations-là? Parce que le problème de 7 ans n'est pas le même de celui de 15 ans. Alors c'est très difficile. Donc je pense qu'on va quand même se fixer sur l'adolescence. Hein. Alors, quand est-on jeune? Ça arrive à un certain moment? Le reste-t-on longtemps?
Logiquement, on est jeune à partir de la puberté jusqu'au moment où on quitte papa et maman. Parce que, et ce moment peut être très, très tôt, hein, 18 ans par exemple du point de vue légal, mais ça peut être plus tôt quand on est placé, et puis plus tard, suivant le cycle d'études qu'on va entreprendre. Quand est-on jeune? Je crois que être jeune, c'est cette période où, dans la présence sécurisante des parents, on met en œuvre ce qu'on a appris dans l'enfance. C'est pour ça que la crise d'adolescence n'est pas une fatalité.
Oui.
C'est que quand les parents sont trop là, ça crise, parce que le jeune ne peut pas avoir sa propre liberté. Mais quand les parents ne sont pas assez là, ça crise aussi. Et donc la crise d'adolescence, c'est un peu le résultat d'un manque de dosage des parents qui peut-être sont trop là du fait de leur inquiétude ou du fait du pouvoir qu'ils veulent avoir sur leurs enfants, ou pas assez là parce qu'ils s'en fichent finalement. Alors, la jeunesse, c'est ce moment où l'enfant, où l'adolescent, finalement, découvre tout un ensemble de choses que vous avez décrites et doit mettre en œuvre quelque chose de personnel. Il fait donc ses premières armes, ses premières expériences, et il le fait jusqu'à ce qu'il soit dans une situation de complète autonomie.
Et alors justement, c'est ça qui est quand même difficile, en fait, pour qu'il soit en complète autonomie, il faut qu'il en ait les moyens. Et compte tenu de son parcours malheureux avec tous les petits problèmes qu'on a exposés, parfois il va avoir des manques.
Alors
parce qu'on va bien réussir ça, à être adulte si on a une bonne base en tant qu'ado.
Ce qui est intéressant, c'est que Dieu a fait la vie comme ça.
Oui, c'est un cycle.
Dieu a fait la vie d'une manière qui nous paraît un peu bizarre. Il nous demande de faire quelque chose alors qu'on n'en a pas encore fait l'expérience. Donc, par définition, on n'en a pas tous les moyens. Quelqu'un qui commence à travailler, forcément, il va mal le faire. Je pense que vous et moi sommes meilleurs enseignants vers la fin qu'au début.
Logiquement.
Du point de vue sexuel, la nuit de noces, quand c'est la première fois, ben forcément, ça ne se passe pas bien. C'est la première fois. Etc. Donc, je crois que de ce fait, la jeunesse est une étape de la vie ou une période de la vie qui est douloureuse, mais dont on a besoin parce qu'on fait des expériences. Tout à l'heure, vous avez utilisé une expression que je trouve importante, connaître ses limites. Il faut qu'on sache jusqu'où est-ce qu'on peut aller, qu'est-ce qui se passe quand on transgresse, et de ce fait, cette expérience-là, elle est nécessaire.
Oui, alors en fait, moi j'étais en train de réfléchir qu'en fait, ces problèmes de l'adolescence, ça me fait un peu penser à la souffrance, et Dieu permet la souffrance pour qu'on tire des leçons et qu'on apprenne. Alors, ces difficultés, peut-être justement de l'adolescence. Bon, attendez, quand je mets une parenthèse tout de suite, j'ose espérer qu'il y a quand même des adolescents heureux. Je pense que ça doit arriver quand même. Hein.
Et je pense que quelque chose qui est très important, parce que dans cette parenthèse-là, c'est que les adolescents heureux, ce sont ceux qui sont là avec des parents qui sont heureux.
Bien sûr, oui. Donc, je voulais dire qu'effectivement, donc, ça va leur apprendre ces lacunes et ces difficultés, peut-être, à se forger. Et c'est peut-être que Dieu laisse ces choses se faire, alors qu'après tout, Dieu devrait les protéger plus, puisqu'ils sont relativement encore faibles. Hein.
On en est à des paradoxes. Je pense que si on regardait qui est prix Nobel dans la liste des Nobel ou qui est excellent dans la liste des chirurgiens, des artistes, des sportifs, c'est souvent des gens qui n'ont pas été heureux avec leurs parents.
Donc, ils ont pu s'affirmer ailleurs.
Qui ont pu s'affirmer ailleurs et qui ont puisé en eux-mêmes de quoi, finalement, pas compenser, mais faire quelque chose pour être heureux quelque part.
Oui, mais il faut qu'ils aient eu cette possibilité, soit de rencontrer quelqu'un, soit d'avoir une capacité à pouvoir compenser.
Eh oui. Oui. Et il faut dire que dans notre société, cette possibilité, globalement, on l'a. On est en République, on est dans un système où on peut... aller au lycée, faire des études. Quand on est sportif et qu'on a envie, on peut réussir dans l'art, etc.
Oui, il y a des possibilités, c'est vrai. Et quand même, peut-être que les possibilités aujourd'hui sont plus grandes, celles qui sont offertes aux jeunes qu'à une certaine époque. Hein. C'est vrai. Mais bon, disons, moralement, disons, affectivement... il y a d'avoir toujours quand même des manques. Alors, je crois que là, on s'est bien étendu sur les points négatifs et il faut y remédier. Hein, parce que cette jeunesse, c'est le monde de demain. Et puis, il n'y a pas de raison que cette jeunesse soit malheureuse. Enfin, il faut quand même les aider. Nous, chrétiens, on court à gauche et à droite pour aider ceux qui sont dans la souffrance. Je ne vois pas pourquoi on abandonnerait nos propres adolescents. Alors, quelles sont les solutions à envisager? Que faire? C'est la question que je vous pose.
Premièrement,
oui.
L'apport qu'on donne à un jeune, c'est l'apport familial. C'est vraiment la première chose, le premier trésor, le premier bagage, c'est à la fois le modèle de papa et de maman, où le jeune peut... Alors, l'enfant va se construire dans l'identification aux parents de même sexe. Le garçon va être comme papa, la fille comme maman, et dans la relation aux parents de sexe opposé. Alors, si moi, qui suis un garçon, j'ai un père qui est entreprenant, qui est à l'écoute, qui est aimant, qui est créatif, et si je suis avec une maman qui est... accueillante, qui m'accompagne, etc., alors je crois que j'aurai de bonnes conditions pour pouvoir mettre en œuvre ce que j'ai reçu dans mon adolescence. Papa et maman présents, des modèles, des personnes qui ont réfléchi sur leur propre bonheur et qui ont vraiment une capacité d'accueil, d'accompagnement, etc. À l'inverse, comme vous l'avez dit, les familles monoparentales, tous les problèmes qu'il peut y avoir entre papa et maman font que l'adolescent est malheureusement a plus de difficultés que d'autres dans ces circonstances-là. Et donc, je crois que les parents devraient bien comprendre que le meilleur cadeau qu'ils puissent faire à leurs adolescents, c'est eux-mêmes d'être bien. Donc eux-mêmes, non pas de demander à l'adolescent de faire quelque chose, mais eux-mêmes de surveiller, d'avoir un cap de bonheur qui soit bien explicite et qui permette aux adolescents de pouvoir se repérer assez facilement.
Vous imaginez le drame de ces adolescents lorsque les pères et la mère sont séparés et qui sont, même si ce n'est pas une décision de justice, même si dans les faits ça ne doit pas se produire, faire un choix entre papa et maman.
Et oui.
C'est extrêmement un drame, difficile à vivre. Comment voulez-vous qu'ils puissent être attentifs à l'école, avoir des idées claires sur l'avenir? Alors, vous avez dit qu'un mot important, un verbe, c'est déjà que papa et maman écoutent déjà l'adolescent, qu'ils le considèrent quand même, malgré son jeune âge, comme une personne digne d'intérêt et qui pense à lui.
Un petit mot sur l'écoute. Parler, c'est choisir. Parler, c'est, quand on est jeune, c'est choisir des mots, M-O-T-S, pour dire quelque chose, et donc c'est se déterminer dans une idée particulière, dans une position particulière, c'est faire un choix. Et donc, si les parents ne sont pas à l'écoute, Alors, l'adolescent a du mal à choisir. Si l'adolescent n'a pas cette faculté de dire à ses parents j'aime mieux la chemise rouge que la bleue, ou bien je n'aime pas très bien les aubergines, ben oui, je vais apprendre à les aimer. Mais si il n'a pas cette faculté de se dire, alors forcément, c'est pas étonnant que ça aboutisse à une crise.
Des premières, disons, effectivement, solutions pour venir en aide peut-être aux adolescents, c'est d'écouter, leur permettre donc de s'exprimer, parce que parler, c'est fondateur, c'est logique. Il faut qu'il, en parlant, qu'il exprime ses besoins, ses intentions, et lui-même va se prouver dans ses propres, évidemment, peut-être limites. Mais il faut peut-être aussi le rassurer, parce que c'est une période, d'après tout à l'heure, tout ce qu'on a dit, qui n'est pas stable. Hein, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que ma barbe a bien poussé? Si c'est un garçon, est-ce que pour la jeune fille, est-ce que j'aurai des dessins corrects? Bon, c'est un exemple un peu bête, mais enfin, qui existe quand même. Hein. Donc, il faut peut-être aussi que les parents doivent rassurer. Et il faut qu'ils soient là. On revient au même problème. Alors, ensuite, peut-être qu'avec les parents, il faudrait que les parents, disons plutôt, abordent peut-être des sujets sensibles, qu'ils aient le courage. Que les parents aient le courage d'aborder des problèmes sur l'avenir, sur la sexualité en général, effectivement, ou évidemment, surtout les grands sujets, ce qu'ils pensent, pourquoi ils le pensent, et laisser aux jeunes évidemment la possibilité d'argumenter aussi ce qu'ils peuvent penser sur
Je crois
l'avenir.
qu'il y a à ce sujet-là, il y a deux grandes écoles. Il y a l'école, comme vous le dites, d'aborder les sujets sensibles, en sachant qu'en abordant les sujets sensibles, vous pouvez produire le contraire de ce que vous avez voulu faire.
Oui, ben on peut graduer.
Mais dès qu'on aborde un sujet sensible, on rend l'adolescent fragile, puisque en fait, c'est un sujet sensible dans lequel on lui propose de se déterminer. Alors, je ne dis pas que ce soit bien ou mal, hein. Je dis qu'il y a deux grandes
Oui,
écoles.
bien sûr, oui.
Il y a l'école donc de la transparence, même en graduation. Et puis, il y a l'école, la deuxième école, c'est l'école du modèle. C'est-à-dire qu'en fait, papa et maman vivent des choses, montrent des choses, n'hésitent pas à parler des choses qu'ils vivent, mais non pas en parlant de manière pédagogique, mais de manière vécue. Ce qui implique quand même un retrait, parce qu'il n'y a pas une volonté d'exportation, si vous voulez, une volonté de formatage, hein, de marquer l'adolescent pour qu'on dise oui, ça y est, on lui a parlé de ça. Personnellement, j'irais un peu plus vers la deuxième solution, c'est-à-dire que je crois que l'adolescent voit, il perçoit, il a quantité de situations dans la société qu'il l'interpelle quant au sujet sensible. Hein, sujet, vous avez parlé de sexualité, il y a la question de la drogue, la question de l'infidélité, la question de l'argent, la question du pouvoir, etc. Il y a une quantité de situations dans lesquelles il est concerné, que ce soit dans sa scolarité, comme dans tous les domaines collectifs dans lesquels il est plongé. Et de ce fait, il me semble que quand il voit chez ses parents des manières de résoudre ces choses, et des manières simples et des manières efficaces, alors je crois que l'adolescent, l'adolescente les résout. Je serais plutôt partant de voir les parents comme ceux qui sont à la tête du troupeau, hein, c'est un
Oui,
peu,
c'est le... oui, non, mais
et
je
donc que
comprends
ceux
très bien
qui
ce que
sont
vous voulez dire.
derrière voient comment ceux qui sont
Par
devant
où il faut
font.
passer?
Mais je suis un peu sceptique quant à la capacité d'apprendre à ceux qui sont derrière sans qu'ils soient vraiment dans la situation, et on peut prévenir. Je donnerai juste un exemple. À un certain âge, je ne sais pas, 15 ans peut-être, notre fille nous dit, voilà, il y a une boum, et est-ce que je peux y aller? Alors déjà, elle était sympathique de nous dire ça, elle aurait pu dire, j'ai 15 ans, et j'exige de pouvoir y aller,
J'ai le
etc.
droit.
J'ai le droit. Bon, alors on lui dit, voilà, à quelle heure est-ce que ça va se faire? Alors elle nous en parle un petit peu, très bien. Et moi, je dis, voilà, tu sais que dans ces occasions-là, il y a des jeunes hommes qui sont peut-être pas très scrupuleux et qui, dans ton coca, vont mettre une petite pastille qui vont faire que tu vas après te laisser faire quand ils voudront coucher avec toi. Donc je lui dis, ben, tu feras attention à ça. Donc là, peut-être que ça rentre dans l'explicite des choses sensibles dont vous parliez tout à l'heure, mais ça rentre aussi dans cette manière qu'ont les parents de marcher devant et de dire, ben là, tiens, je me suis cassé la figure, donc n'y va pas. Vous voyez, qui est plus un témoignage vécu qu'un apprentissage de la vie qu'on voudrait donner aux enfants.
Mais les parents, s'ils sont là, hein, je vous trouve très optimiste. Et disons, il faut qu'effectivement, donc, ils témoignent plutôt de leur vie que de donner des leçons. C'est ce que vous voulez dire, en
C'est
fait.
ça,
Hein,
c'est ça.
effectivement.
Alors là, je parle de ma vie familiale, hein,
Oui, bien sûr.
et
Oui, non,
c'est.
mais on a compris. Oui, dans cet exemple-là. Mais vous savez que, bon, en fait, être trop permissif aussi, ça ne rassure pas l'enfant parce qu'il ne sait pas. Ensuite, par la suite, il va avoir des manques, il ne connaît pas les limites. Or, dans la vie, on a besoin quand même de limites. Hein. Mais par contre, d'être trop strict, ça va décourager, stresser, et ça va enfermer l'adolescent. Donc, il y a toujours des choix à faire. Et c'est toujours extrêmement difficile. On parle des jeunes, mais je crois que, il faudrait rajouter être jeune aujourd'hui et être plutôt être parent de jeunes. Parce que, en fait, ça implique effectivement donc beaucoup les parents.
Je voudrais faire une petite remarque sur le mot difficile. Et à ceux qui nous écouteront, je voudrais vous dire que dans la vie, tout ce qui a de la valeur
Est difficile.
coûte.
Coûte.
Donc si ça coûte, c'est que c'est difficile. Donc si c'est difficile, plus vous le direz, et plus ça vous sera difficile, plus ça vous paraîtra difficile. Je pense que tout ce que Dieu nous appelle à faire, et du domaine du possible et du réalisable. Donc, si c'est possible et réalisable, alors allons-y. Mais si chaque fois qu'on dit que c'est difficile, on se met un peu des barrières.
Oui, bon, j'ai employé beaucoup le mot difficile, effectivement, mais je veux dire, une situation qui n'est pas facile,
Je vais
disons,
donner mon
à
exemple
vivre.
personnel. J'ai trois enfants qui sont passés par l'adolescence. Hein, qui ont maintenant 26, 25 et 21, bon, ils sont passés par l'adolescence.
Ben oui.
Et j'en ai une quatrième qui est dans l'adolescence. Donc, je pense pas que rien de ce qui s'est présenté à nous n'ait été insurmontable à ma femme et à moi. Et donc, il ne faudrait pas que les gens qui vont écouter cet enregistrement disent, ah oui, avoir des adolescents, c'est quelque chose, suivant ce qu'on va être, ils vont bien tourner, mal tourner. Écoutez, je voudrais peut-être marquer cette réflexion sous ce verset d'Ecclésiaste 7, le verset 18, qui dit, qui craint Dieu sort de tout. Donc, dès l'instant où on veut faire les choses avec le Seigneur, dans la perspective de le faire avec lui, pour lui, alors il me semble que ça ne marche pas trop mal.
Alors Guillaume, vous nous donnez votre exemple de Guillaume et Isabelle. C'est un couple qui a 50 ans, qui est encore ensemble et qui a une foi. Donc, bien entendu, mais vous savez très bien que ça n'existe pas partout. Par exemple, les familles recomposées, c'est une source de difficultés. Je ne veux pas dire que les enfants tourneront mal. Non, parce qu'il y a quand même Dieu. Ils peuvent même mieux réussir. Parce que moi, par exemple, aussi, je suis plus âgé que vous, et j'ai des expériences. Et je vois que des parents peuvent très bien avoir dans la même famille, dont les mêmes principes d'éducation, et que ça ne réussit pas obligatoirement de la même façon sur l'un ou sur l'autre. Et que sur, ou des garçons ou des filles, je veux dire, c'est pas un problème de sexe. Ils appliquent les mêmes méthodes et les résultats sont différents. Et parfois, des familles identiques vont appliquer des méthodes différentes et les résultats ne sont pas non plus ce que c'est. Alors c'est quand même assez très très difficile à voir. Hein. Donc aussi, il faut mettre vous qui avez eu donc quatre enfants, ne faut-il pas non plus que les parents pensent à adapter son comportement à son jeune, justement, pour éviter ces différences de résultats? Parce que chaque enfant est différent, chaque enfant est une personne, avec son positif et son négatif, avec son capital. Hein.
Oui, je vais en premier lieu faire une toute petite remarque sur le mot « réussir ». C'est intéressant de voir que le mot « réussir » ne se trouve pas dans le Nouveau Testament. Mmh. Et
pour moi, c'est une image, c'est pour faire comprendre.
Et je ne dirais pas que la personne qui se retrouve dans une situation monoparentale et qui a des enfants qui se droguent est en échec, et que Guillaume et Isabelle, qui ont quatre enfants qui ne se droguent pas, est en réussite. Je crois que Dieu sait ce qui est réussite et échec, et j'entends que celui qui a beaucoup reçu, dit Jésus, il lui sera beaucoup redemandé. Et c'est facile, quand vous avez un capital d'amour, d'éducation, de connaissances, de créativité, c'est très facile, si vous avez un capital de 100, de faire 101. Mmh, mais si vous avez un capital de 1, de faire 2, c'est la même progression. Donc, en fait, on compare celui qui a 2 et celui qui a 101. Mmh. Et je refuse un peu cette notion de résultat, de dire, il ne faut pas être inquiet sur ce que je vais devenir. Voilà, c'est une première chose. Après, vous avez parlé des parents qui doivent s'adapter aux uns et aux autres. Et là aussi, trois filles et un garçon. C'est étonnant comme nos deux premières filles sont différentes. Mais franchement, avec ma femme, on n'a jamais été en souci de s'adapter. On a vécu.
L'avez vécu.
On a vécu.
Été attentif.
Mais on ne s'est pas demandé, en fait, si...
Mais ça fait naturellement.
Voilà. C'est-à-dire qu'en fait... peut-être que un premier blocage d'adaptation, c'est le fait d'aller lire des bouquins et d'essayer de reproduire ce que disent les bouquins. Je crois qu'il vaudrait mieux, si par exemple quelqu'un nous écoute et c'est un couple qui a 35 ans et qui a des enfants qui ont 3, 4, 5 ans, et ils se disent, ça y est, j'ai compris ce que c'est que la foi chrétienne, et je vais essayer de mettre en œuvre une éducation la plus parfaite possible. Ben, je crois que déjà, ils se mettent une pression terrible. Ce qu'il faut, c'est qu'ils vivent. C'est-à-dire, dormez, couchez-vous suffisamment tôt, levez-vous suffisamment tôt, aimez votre travail, aimez manger, aimez vous amuser, allez vous promener, et puis vous verrez que vos enfants seront très bien avec vous. C'est tout. Hein? C'est-à-dire qu'être dans quelque chose de simple, et après, il y a des enfants qui sont plutôt artistes, et qui parlent peut-être pas trop, des enfants qui sont plutôt relationnels, qui ont beaucoup parlé, des enfants qui sont plutôt mathématiciens ou organisateurs, et qui vont être assez logiques, assez... à ce compte-là, vous verrez bien tout ce que ces enfants feront. Et je crois que dans la mesure où on le fait avec le Seigneur, c'est vrai que l'éducation est plus facile. Mais alors moi, je voudrais un peu renverser les choses et dire du côté du jeune. Par contre, jeune, si toi, c'est peut-être pas sûr que tu écoutes ce genre de conférence, mais si jamais tu écoutes ce genre de conférence et que tu es avec des parents qui te prennent la tête, avec des parents qui sont trop sur toi, eh bien, accepte-le, écoute, Dis-toi là aussi que le Seigneur t'appelle à traverser un peu ce moment où peut-être que papa et maman sont pas très bien dans leur peau, parce que il y a ceci, cela, peut-être le chômage, peut-être la maladie, peut-être des circonstances familiales, des circonstances de société, de voisinage, qui sont pas faciles, et donc peut-être des circonstances simplement internes à la famille, et ça vaut la peine d'attendre, de pas trop se presser. Par exemple, jeune, dans la lettre de Paul à Tite, il y a six recommandations au chapitre 2, qui sont faites aux hommes âgés, aux femmes âgées, aux jeunes femmes, aux jeunes hommes, à Tite et aux esclaves, on pourrait dire aujourd'hui aux salariés. Bon, eh bien, si jeune, tu ne connais pas la recommandation qui t'est faite, alors peut-être que tu passes à côté de quelque chose d'important. Hein? Et donc la recommandation qui est faite aux jeunes hommes, c'est d'être sobre. C'est-à-dire que toi, jeune homme, tu as une capacité, tu as une force, tu as une capacité, une vitalité, tu as une capacité à aller de l'avant qu'il faut maîtriser, qu'il faut modérer. Et donc, quand tu as envie de faire quelque chose, prends un peu de recul, vas-y tranquillement dans ton rapport avec tes parents, ton rapport avec les autres. Voilà, essaye d'être un peu dans cette recommandation et certainement que ça te fera du bien.
Au sujet des être jeune aujourd'hui, je voudrais quand même revenir sur un point qui me paraît essentiel. Je crois qu'il faut que les ados aient la possibilité de faire des choix. Donc, la responsabilité des adultes, c'est de leur dire, voilà ce que tu peux choisir, par exemple, dans un loisir, du sport, de la musique, du dessin. Donc, ça mène l'adolescent à choisir. S'il préfère le dessin, il choisit le dessin. Mais une fois que son choix est fait, il faut lui dire, maintenant, tu continues à faire ton dessin, au moins pendant l'année scolaire, parce que je pense à des ados qui sont à l'école. Et ça, c'est relativement important, parce que la vie n'est faite que de choix. Et il faut leur apprendre, qu'ils sachent à quoi ils s'engagent, quels vont être les côtés positifs ou négatifs, les avantages et les inconvénients de son choix, et puis les mettre devant leurs responsabilités. Donc, je crois que là, c'est relativement important de leur apprendre la responsabilité. Parce qu'un jour, ils seront lâchés, ils partiront du nid, et ils ne pourront que s'assumer que s'ils ont vraiment tous les moyens avec eux, dans leur sac, ado.
C'est vrai qu'il y a des situations où nous, en tant que parents, on devrait sentir ou on sent que l'adolescent a un choix à faire et qu'il faut l'accompagner dans ce sens. Je parle d'expérience sur des choses qui sont arrivées il n'y a pas longtemps. Notre dernière fille aime beaucoup la musique et donc on lui a proposé de choisir une classe CHAM, donc une classe dont les horaires sont aménagés pour la musique ou la danse ou le sport, etc. Mais ce choix n'était pas facile parce que, le faisant, elle changeait de collège et elle n'était plus avec ses copines. Et donc, on l'a accompagnée dans un choix qui a quand même été son propre choix. Et ces situations sont assez fréquentes. On a aidé nos enfants à faire des stages en classe de 3e. Et les stages sont là aussi à choisir. On ne connaît pas forcément bien ce que les enfants ont envie de faire. Ça se découvre au fur et à mesure. Et donc, je crois qu'encore une fois, il faut être petit, humble et se rappeler qu'on ne contrôle pas grand-chose dans la vie et que finalement, il y a des portes qui s'ouvrent, des portes qui se ferment. Mais l'important, c'est d'être dans cette dynamique de... comme vous le dites, de choix, d'accompagner l'adolescent à choisir, et puis de la part de l'adolescent à pas trop s'inquiéter sur l'enjeu qu'il y a derrière ses choix. Il faut qu'il apprenne à choisir. Parmi les choix, par exemple, d'abord il y a les choix relationnels.
Hein, il y a ça compte beaucoup.
Ça compte beaucoup.
L'adolescence.
Oui. Les amis qu'on se fait, le fait de tout à coup de sentir qu'avec l'un ou avec l'autre on est mieux, on a des choses à faire. Hein, les choix relationnels, apprendre à connaître quelqu'un, apprendre à finalement apprécier la compagnie de quelqu'un, apprendre à pardonner, apprendre à supporter, à différentes choses. Dans les choix aussi, il y a le choix aussi de se laisser instruire par les parents. Le choix de comprendre que ceux qui sont plus âgés ont compris plus de choses, et donc le jeune a intérêt à poser des questions, intérêt à se renseigner, intérêt à par exemple, il y a bien des jeunes qui, on leur dit de réparer une chaise, ils ne vont même pas savoir s'il y a de la colle à bois, ils vont mettre de la colle, ils vont dire, bah, tiens, la colle, elle ne tient pas. Mm. On leur dit, oui, mais il y a une différence entre colle à PVC, colle universelle, colle à bois, colle, etc. Donc, il y a un choix de la part des jeunes. Il faut apprendre. Et c'est vrai que plus le jeune... et comprend, plus l'adolescent comprend qu'il doit apprendre, plus c'est facile. Hein, c'est pas pour rien que, quand même, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le collège, le lycée ou dans l'église, l'obéissance, quelque chose d'important.
Oui, bien sûr qu'il faut, y a des règles à respecter partout, c'est certain. Et disons aussi, il y a un autre problème, parce que là, moi, j'étais dans l'enseignement et j'ai vu des parents catastrophés parce que leur enfant ne pourrait pas arriver à la carrière que le père et, ou la mère ou les deux avaient pensé pour leur enfant. Et là, c'est dramatique. Comment il ne sera pas médecin? Comment il va être pompier? C'est pas possible. Qu'est-ce que vous y avez fait pour qu'il... il ne soit pas, il pourra pas arriver à faire médecine, ainsi de suite. Et ça, l'enfant va souffrir, parce qu'on peut arriver à lui imposer quelque chose, une carrière ou une certaine orientation, disons, d'études, où il sera profondément malheureux et où il ne sera pas. Et je pense qu'il vaut mieux avoir, à la limite, si c'est une fille, une femme de ménage heureuse, plutôt qu'une directrice commerciale qui est malheureuse et qui ne sait pas s'y prendre. Donc, il faut penser, disons, à l'enfant et à leur, là aussi, à ce qu'il choisirait.
Et on peut dire que, assez souvent, les enfants vont dans le projet des parents, ils ne vont pas dans un projet qui leur est personnel.
Parce qu'on apprendre, leur a offert la possibilité de voir des expériences et des choix.
De ce point de vue-là, apprendre à choisir, c'est vraiment un cap qui doit être défini par les parents, que les parents laissent à l'enfant la possibilité de choisir. Mais chez les parents inquiets ou dans la toute-puissance ou dans une certaine bourgeoisie qui...
Non, il n'y a pas toujours chez les bourgeois, hein, ses choix. Oui. Je n'ai pas pu être médecin, donc mon fils sera médecin.
C'est ça, aussi, oui, tout à fait. Alors, on va imposer à nos enfants quelque chose... finalement, qui vont subir toute leur vie par la suite.
Donc, on comprend qu'ils peuvent étouffer.
Hein, oui.
Effectivement. Alors, donc, à part, il reste quand même, disons, est-ce que le jeune, vous lui conseilleriez, par exemple, de voir si sa famille est un peu défaillante, parce qu'ils ont un esprit critique, hein, effectivement, de s'adresser, en cas de crise, d'aller voir un éducateur, un professeur, le médecin de famille, si c'est un problème physique ou autre, un ancien de l'église, un aumônier de mouvement, ou un ami de la famille.
Oui. Je conseille à tout jeune qui souffre dans son cadre familial dans la mesure où il ne peut pas assumer ses propres souffrances, d'en parler à quelqu'un qui est suffisamment capable de l'écouter, parce qu'il y a des gens qui, à qui, pour qui écouter quelque chose de ce ressort est trop difficile.
Donc, c'est le parent qui peut dire à l'adolescent, va voir un tel, ou c'est il faut laisser l'adolescent trouver son
Je pense qu'il y a différentes,
tuteur.
il y a différents garde-fous dans notre société. Il y a tout le système pédagogique à l'école, au collège, en lycée, avec les conseillers d'orientation, avec les psychologues de l'école, qui sont là peut-être pour voir, pour entendre quand ils peuvent le faire. Dans les entreprises, aussi on se rend compte de ce qui ne peut ne pas aller. Dans les grosses entreprises, il y a quand même ce qu'on appelle les ressources humaines, hein, qui sont là pour ça. Dans l'église, il y a la dimension pastorale de l'église. Et puis dans la famille, il y a. Donc quand un jeune viendrait en stage dans une entreprise, il peut être aussi remarqué et puis on peut lui dire quelque chose.
Mais
Je
il faut
crois
se
que de.
rendre compte par lui-même aussi,
Voilà, de
ça
toute
lui
façon,
convient ou pas.
il y a donc certaines situations qui peuvent permettre aux jeunes de réagir et des situations qui sont suffisantes.
Il faut quand même aborder, pour nous jeunes, le problème spirituel. Comment voyez-vous l'affaire?
De manière assez simple, il faut poser des choses simples et garder des choses simples. Spirituellement parlant, quand on est jeune, il faut apprendre à connaître Dieu. Il faut apprendre à intégrer Dieu dans sa vie personnelle. Et connaître Dieu, c'est quelque chose de compliqué, c'est compliqué pour les adultes, c'est compliqué pour les jeunes aussi, mais c'est simple parce que c'est finalement faire ce que Dieu nous demande à tout moment. Connaître Dieu, c'est s'ouvrir à lui. Connaître Dieu, c'est lui laisser du temps dans nos journées, le matin, le soir, un peu quand on veut, lui laisser de la place dans notre réflexion, dans notre pratique de tous les jours.
Mais comment y arriver à l'amener à ce que vous dites là?
Eh bien, je crois que le jeune devrait vraiment se dire que il faut qu'il aille à l'église régulièrement. Il faut qu'il écoute ce que les gens plus âgés ont à dire. Il faut qu'il se mette en situation de recevoir cette exhortation, cet enseignement, cette connaissance de Dieu, qui se donne la peine d'entendre et puis qui se disent, bon, ben, ça produira quand ça produira. Écouter, c'est une chose. Être en relation avec Dieu, c'est autre chose. Prier, par exemple. Prendre des décisions avec Dieu. Est-ce que le jeune est baptisé? Est-ce que le jeune a vécu ce moment où finalement, quand on demande à être baptisé, alors on demande à vivre cette situation de s'engager avec Dieu par un signe qui, comme on a pu le dire dans un autre enregistrement, est un signe de mort et de vie. Je m'applique la mort de Jésus-Christ, c'est-à-dire je meurs dans tout ce que j'ai été de mauvais, et je m'applique la vie de Jésus-Christ, c'est-à-dire je renais dans tout ce que la puissance de Dieu me donne.
C'est formidable pour les adolescents qui ont cette démarche. Parce que pour eux, évidemment, c'est important, c'est leur choix. Mais dans certaines confessions, on ne vous demande pas l'autorisation. On ne vous demande pas ce que vous pourriez passer. Les bébés sont baptisés.
Oui, mais
Donc il faut que ça se découvre
peut-être
après.
que ces gens-là passent par d'autres étapes qui s'appellent la confirmation.
Voilà, bien
Et donc, il
sûr.
y a un moment donné où on réagit, où on peut s'engager avec Dieu, et je veux dire une énormité.
Allez-y.
Si j'étais Dieu,
Oui, rien que ça.
je me réjouirais de voir des enfants me dire, je m'engage avec toi. C'est-à-dire que dans mon cœur de Dieu, il y a quelque chose d'extraordinaire de voir un adolescent de 15 ans dire, écoute Dieu, je te connais pas bien, hein, on m'a dit qu'il fallait que je fasse ma confirmation, mais je suis en train de te dire que je m'engage avec toi. C'est-à-dire qu'il y a hein,
Le
voilà,
bonheur, la joie de s'engager.
quelque chose qui relève de l'excellence là-dedans. Et
Oui.
je pense qu'il ne faut pas craindre de s'engager avec Dieu. Il faut pas craindre, et après c'est valable pour tous les âges,
Mais est-ce qu'on peut avoir une crainte de s'engager auprès de Dieu?
je pense, oui.
Oui.
Ou plutôt ne pas juger de tout l'impact de cet engagement. Dire, mais ça sert pas à grand-chose.
Ça, il peut l'entendre
Hein?
dire.
Voilà. Et donc, donner à l'engagement avec Dieu toute sa vertu, toute sa capacité de. Comment dire, où on a. Des fois, je me dis, mais la main de Dieu, elle est bien grande, elle est puissante, elle est. Et donc, en
Plein de
fait,
doigts.
plein de doigts, plein de doigts, quand je me mets dans la main de Dieu, alors je me mets dans une sécurité qui est sans pareille.
Oui, c'est beau
Hein?
si le jeune le découvre,
Hein,
effectivement.
voilà une première chose que je proposerai aux jeunes.
Et alors, vous le proposeriez aussi, probablement, la lecture de Saint Paul. Oui.
Alors, je proposerais une lecture de l'ensemble de la Bible.
Oui, bien sûr,
Hein,
c'était
voilà.
dans
C'est-à-dire
mon
que,
esprit, c'était.
voilà. C'est-à-dire qu'en fait,
C'était vrai.
la Bible est composée pour à peu près les deux tiers de récits, d'histoires. Hein, dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, il y a l'histoire des familles. Après, il y a l'histoire d'un peuple. Dans les psaumes, c'est l'histoire de personnes. Les évangiles, c'est l'histoire aussi de Jésus. C'est dans les actes, c'est l'histoire de l'Église. Et donc, je crois qu'il faut lire ces histoires et se remplir de toute cette connaissance, cette expérience de ces gens. Et Dieu veut nous transmettre quelque chose par le biais de cette histoire. Donc, voilà, être tranquillement. Dans cette lecture et ne pas hésiter à tout lire.
Il peut être guidé.
Il peut être guidé par des lectures particulières. Par exemple, on a lu, nous, en tant que parents, la Bible en 365 jours, qui est une
Ah,
Bible
ça c'est
racontée,
sympa, oui.
qui est une Bible qui n'est pas la Bible, qui est une histoire de la
Une
Bible
histoire, oui.
générale. Donc c'est bien, ça permet de la faire découvrir. Il y a la Bible en bande dessinée, il y a la Bible pour les jeunes, il y a la Bible pour les nuls, donc il y a
Il y a
différentes manières de
différentes
lire la Bible.
possibilités.
Voilà. Alors une autre chose que je voudrais dire pour les jeunes, c'est que le progrès est quelque chose qui est vraiment une des marques essentielles de l'humanité. Progresser, c'est normal. Et si un jeune pense qu'il y est arrivé sans qu'il ait jamais rien fait, alors, il peut être certain d'une chose, c'est qu'il ne sera jamais arrivé. C'est-à-dire que on a à apprendre de partout. On a à apprendre pour planter des fleurs, on a à apprendre pour apprécier le vin, on a à apprendre pour utiliser un ordinateur, on a à apprendre pour avoir une relation équilibrée avec quelqu'un. On a toujours à apprendre. Et si on n'accepte pas vraiment d'être dans le progrès, ben je crains que
Le progrès de soi, hein?
progrès de soi.
Oui.
Je crains qu'on n'y arrive jamais. Et être dans le progrès, forcément, c'est souffrir. être dans le progrès, par exemple, personnellement, je cherche à progresser dans ma connaissance de Dieu, dans ma connaissance de moi, dans ma connaissance de l'autre, dans l'aménagement de mon bureau, dans ma manière de chanter, dans...
Pardonnez-moi, Guillaume, mais vous n'avez pas 15 ans, ni 18 ans. Donc ça, c'est valable pour toute la vie. Hein.
Pour toute la vie. Pour toute la vie. Mais c'est vrai que la jeunesse, hein, la période de la puberté, jusqu'à ce qu'on quitte papa et maman, c'est le moment où on commence à progresser. Parce que c'est le moment où on a une mise en œuvre personnelle. On
devient un peu soi.
C'est le moment où on devient un peu soi, comme vous le dites. Et donc, si on est contre la difficulté, si on a du mal à être dans cette dimension de progrès, alors je crains qu'on se coupe un peu l'herbe sous les pieds, c'est-à-dire on n'y arrive pas. Mm. On a besoin de faire face à ce qui est difficile. On a besoin d'avoir cette honnêteté, ce courage, et de dire ben oui. Je ne connais pas grand-chose, mais j'y vais. La Bible est un livre long, un livre complexe, mais j'y vais. Je commence bien quelque part et je verrai bien que ça me mènera quelque part.
Et Paul conseille à Timothée, de, malgré qu'il soit jeune, de se faire respecter.
Oui, oui. Ça paraît aussi étonnant. Ça, hein.
Oui, à la première lecture, on dit « bon, mais c'est plutôt logique ».
Oui,
c'est une personne. Moi, je pars toujours là-dessus. Le jeune, de 18, 15, 20 ans, c'est une personne.
Voilà, on pourrait dire, mais pourquoi est-ce que Paul ne s'est pas adressé à ceux qui ne respectent pas les jeunes en leur disant, vous devriez respecter les jeunes.
Aussi, oui, il faudrait.
Hein, et il ne le fait pas trop. Mm. Mais par contre, il dit aux jeunes, hein, voilà, par exemple, cette expression que personne ne méprise ta jeunesse. Mm. Et c'est vrai que On a pu entendre ici et là et des gens qui ne se sentent pas écoutés chez eux, dont les propos n'intéressent personne. Et je crois qu'il faut, que le jeune sache que ce qu'il vit est intéressant, que ce qu'il a à dire est intéressant, et que si les adultes ne sont pas toujours là pour l'écouter, ben, il peut quand même y aller.
Alors un autre aussi verset, c'est Paul toujours qui s'adresse à Timothée. Il lui conseille de donner des ordres et enseigner. Mais et là aussi, c'est un peu surprenant. Pour donner des ordres, il faut avoir quand même certains pouvoirs, et il faut avoir certaines capacités, et enseigner aussi. Alors, à qui peut-il le faire, le jeune?
Dans le cas de Timothée, je dirais, au vu des périodes dans lesquelles Paul a écrit ses lettres, on estime que Paul a écrit 1 et 2 Timothée entre 62 et 64, après Jésus-Christ. Hein, dans cette période où il est en 62, il est relâché des prisons romaines, ou plutôt de cet appartement qu'il avait loué à la fin de l'acte 28. Et donc il écrit à ce Timothée qu'il a pris, lui, je crois en acte 16, à son passage à Lystre. Et donc, en acte 16, il est plutôt dans les années 52-54. Et donc, ce qui fait qu'il y a une grosse dizaine d'années entre le moment où il a pris Timothée et après où il lui écrit. Quand il a pris Timothée, on peut estimer que Timothée avait une vingtaine d'années, et que par conséquent, Timothée doit avoir une grosse trentaine.
Et voilà, oui, bien sûr.
Et que s'il est jeune, c'est plutôt qu'il est jeune par rapport aux gens de l'Église. Il est jeune par rapport aux responsabilités qu'il a, et pas tellement par rapport à une jeunesse dans l'absolu.
Une jeunesse, oui, d'accord.
Voilà. Ce qui fait qu'il a les mêmes problèmes, parce qu'il a besoin de faire des actes d'autorité. Hein, par exemple, il doit dire aux personnes de ne pas raconter de fables. Il doit dire aux personnes âgées, Paul va dire à Timothée, ne reprends pas durement les personnes âgées. Donc il a des recommandations particulières. Et c'est vrai que ce n'est pas facile pour lui parce que c'est quelque chose de nouveau, un peu comme le jeune qui a beaucoup de choses nouvelles.
Alors en fait, le jeune, en fait, il doit faire preuve de la patience. Alors si on peut conclure, moi je prendrai toujours, une image que nous aimons bien, vous et moi, c'est celle du jardin. Hein, souvent, on parlait du jardin et ainsi de suite. Alors, ce serait tout simple que la jeunesse est comme un jardin, un terrain, effectivement. Alors c'est le temps de préparer. Et de l'avenir sous le regard de Dieu, donc de faire confiance, alors il faut enlever les pierres, les mauvaises herbes, et arracher évidemment tout ce qui ne va pas, puis il faut remuer la terre pour l'aérer, donc s'ouvrir, hein, et puis semer, en ayant choisi peut-être évidemment les bonnes semences, prévoir des tuteurs, parce que parfois la plante va monter, il ne faut pas qu'elle monte toute de travers, donc il faut qu'il y ait évidemment des tuteurs, placer une clôture pour la protéger, mais quand même prévoir des ouvertures, hein, pour sortir de son jardin ou faire rentrer quelqu'un. Et donc il faut veiller, arroser, et puis patienter. Et je crois que le jeune est tout simplement le jardinier de sa propre vie.
Ça me paraît très très bien. Je vais ajouter une toute petite chose qui est que tout ce qui est fait dans la facilité, ça ne mène pas très loin. Et donc il faut se méfier de la facilité. Il faut se méfier des jeux, par exemple. Hein, le jeune qui jouerait tout le temps, ben,
il se coupe.
Bon, hein, oui. Voilà, cultiver son jardin, c'est quelque chose qui demande justement un apprentissage, une exigence, une persévérance, une cohérence,
patience,
et que les plus belles choses demandent beaucoup de temps pour être faites. Et donc, il ne faut pas craindre d'investir. Et puis, à un moment donné, on commence à voir ce qui a été fait, et là, on est content.
De voir.
Mais imaginons par exemple quelqu'un qui est transporté par hélicoptère sur le sommet du Mont Blanc. Je ne suis pas sûr qu'il ait en lui-même toute l'appréciation de celui qui aura eu du mal à monter pas à pas au sommet du Mont Blanc.
Exactement, parce qu'au moment de l'ascension, il va découvrir des points de vue qu'il n'aura pas de là-haut. Il lui manquera quelque chose, hein, s'il monte tout de suite avec son hélicoptère.
Avec tout ça, on souhaite bon courage aux jeunes. Et on dit que, de toute façon, si vous prenez le Seigneur dans votre vie, ou plutôt si vous suivez le Seigneur dans votre vie, alors certainement, tout ira bien.